je vais essayer de vous présenter ce midi. C'est un retour d'expérience, c'est absolument pas une vérité, encore moins une vérité descendante. C'est vraiment un retour d'expérience pour moi du terrain. D'un DSI, je me considère comme un DSI junior. Je n'ai que 5-6 ans d'expérience en tant que DSI, versus par contre quelques années autour de l'agilité. Moi, j'ai grandi de ce monde-là, je viens du développement logiciel, je viens de la gestion de projet, et notamment agile. C'est un domaine par contre que je connais un peu mieux. Et quand je suis devenu DSI, bah, c'était un peu le fil d'équilibre que j'essayais d'avoir. C'est bah, ne pas renier de là où je viens, être agile. Et en même temps, bah, voilà, j'avais un défi à relever, celui d'être DSI. Et je découvre de nouveaux obstacles sur mon parcours de directeur. C'est des phrases magiques qui arrivent du COMEX, du board, de gens très impressionnants qui vous posent des questions comme: mais si l'informatique est un investissement, pourquoi est-ce que les coûts augmentent toujours? Voilà, genre de phrase absolument magique à laquelle il faut que j'arrive demain à apprendre à trouver des réponses pertinentes. Donc voilà le contexte dans lequel j'essaye de vous refaire un retour d'expérience ce midi. Je ne sais pas quel est le niveau de connaissance générale sur l'agilité, donc je me permets de faire 2-3 slides pour qu'on ait tous le même niveau de compréhension sur ce que moi j'entends par agilité. L'agilité, pour moi d'abord, c'est le manifeste agile. Donc, c'est une réunion qui a eu lieu il y a quelques années où les gens ont posé quelques éléments en commun, des valeurs, 4 qui sont inscrites ici, les individus et les interactions plus que les processus et les outils, un logiciel fonctionnel plus qu'une doc, la collaboration avec le client plus que la négociation, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Bon, en général, il n'y a pas grand monde qui vient challenger ces valeurs-là. Ça fait en général consensus. Par contre, derrière ces 4 valeurs, il y a 11 principes. Là, ça va commencer à piquer un peu plus, notamment quand on essaye de les lire avec un œil de DSI. Je vous laisse lire les premières. Et on va faire s'attendre à la quatrième. Encore une fois, à lire cette fois-ci avec l'œil d'un DSI. Dans les principes de l'agilité, on nous dit qu'il faut construire des projets autour d'individus motivés. Il faut leur fournir un environnement et le soutien dont ils ont besoin pour leur faire confiance et accomplir la tâche. Alors moi, en tant que manager, ça m'interroge toujours, comment on fait pour avoir des individus motivés? Je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire dans les principes de l'agilité, j'ai peut-être un rôle à jouer moi là-dedans. Si on continue un peu plus loin, on nous dit, le processus agile favorise un environnement durable, les sponsors, les développeurs et les utilisateurs doivent pouvoir maintenir un rythme constant indéfiniment. Alors, je comprends l'intention. Je sais pas vous, mais moi, je suis jamais arrivé à retrouver un rythme de régularité constante dans le fonctionnement des entreprises. Donc, comment moi, en tant que manager, je dois arriver à avoir un rythme constant dans un rythme d'entreprise qui, lui, est jamais constant? Donc, ça me questionne. Et puis, le dernier point que je voulais mettre en lumière, c'était les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Alors ça, pour l'avoir vécu, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent: oh mon Dieu, il n'y a plus besoin de managers. Merde, ils ont tué les managers avec l'agilité. C'est quand même une position qui devient difficile, notamment quand on est le DSI, potentiellement le manager d'autres managers. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est la petite blague que j'ai mis en bas, c'est que le jour où déjà je suis devenu manager informatique de développeurs, j'avais l'impression d'être un traître parce que je n'étais plus un vrai agiliste qui pratiquait. Et alors le jour où je suis devenu DSI, les équipes avaient carrément l'impression que j'avais oublié ce que c'était que l'agilité, comme si on m'avait absolument ensorcelé. Pareil, si on continue dans l'agilité, il y a plein de méthodes. Il y a la plus connue. Je refais un petit tour dessus pour qu'on ait des éléments de vocabulaire en commun. Notamment dans Scrum, il y a trois rôles qui sont définis. Un product owner qui a le rôle de créer, prioriser et de maintenir à jour un backlog, c'est-à-dire un cahier de doléances, de demandes, qui doivent être donc priorisés, le plus clair sur ce qu'on attend de la création du produit. Il y a l'équipe de développement, en tout cas les gens qui font, qui vont produire, qui vont tester, qui vont concevoir, qui vont fabriquer. Et puis il y a le Scrum Master qui a un rôle de fluidificateur, de facilitateur, qui est garant des méthodes qui va être mis en place et qui a une posture non pas de chef autoritaire, mais plutôt d'être au service d'être un leader sur le produit, mais vraiment d'être un leader au service de l'équipe et au service du produit. Donc ça, c'est les trois rôles que propose Scrum et qu'on entend régulièrement quand même dans le fonctionnement des équipes quand on parle d'agilité. Je me suis amusé, comme tout le monde, à faire du chat GPT. Donc j'ai demandé à chat GPT, OK, et c'est quoi les missions d'un DSI? Donc pareil, vous avez ici la liste. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce que chat GPT m'a dit? Qu'un des rôles, c'est de faire de la gestion de projet, de superviser les projets informatiques et d'entreprise afin de s'assurer qu'ils soient réalisés dans les délais et les budgets prévus. Je pense que ça, c'est à peu près universel, quels que soient nos projets. Que le DSI, il est là pour veiller sur l'innovation technologique, à ce que l'entreprise utilise les technologies les plus récentes et les plus efficaces pour soutenir les objectifs commerciaux. Là, ça me fait un petit peu transpirer. Je me dis, waouh, si systématiquement un bon DSI, c'est quelqu'un qui fait qu'il y a toujours la dernière stack technique, je pense qu'on est très très loin de la réalité de ce qu'on vit tous sur le terrain. Et quand même, la bonne nouvelle, c'est que ChatGPT a conscience qu'un DSI doit être un grand communicant et quelqu'un qui doit être clair sur sa stratégie, sur ses projets auprès de ses pairs, des gens qui sont autour de lui, de ses employés, de ses fournisseurs. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, au final, quand même l'impression que DSI, c'est un vrai métier à risque. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'informatique coûte extrêmement cher, que l'informatique est systématiquement en retard. En plus, on a quelques images de caricatures qui nous collent à la peau. On comprend rien au métier. C'est la base. Et un truc que j'ai vraiment entendu, c'est qu'être un DSI, au final, c'est être le chef d'une équipe d'autistes. Quand même, des préjugés qui sont assez forts. Donc moi, dans mes premiers mois ou dans mes premières années de DSI, je me suis dit, bon, il va quand même falloir qu'on arrive à faire un peu mieux que ces stéréotypes. Et je me suis posé la question de savoir comment ces années passées à faire de l'agilité pouvaient m'aider dans mon métier de DSI. Et notamment m'aider à avoir une posture un petit peu différente de celle qu'on peut imaginer d'un DSI classique, pour que ce soit à la fois plus agréable pour moi, que je me sente bien dans mes baskets et aligné par rapport à mes valeurs, que ça soit aussi enthousiasmant pour mes équipes qui, elles, baignent dans l'agilité. Et qu'ils aient l'impression aussi d'avoir avec eux un DSI qui les comprenne et qui travaille un peu de la même manière qu'eux. Et puis auprès de mes boss et des dirigeants d'entreprise, pareil, qu'ils aient un DSI qui soit vraiment en communication, en échange avec eux, et pas juste un chef d'autiste comme ça peut être souvent imaginé. Et puis le but pour moi, c'est d'arriver aussi à mesurer que ce rôle-là, il soit efficace et de mettre en place des organisations qui délivrent réellement de la valeur. Alors j'ai commencé à creuser et à imaginer un petit peu le parallèle entre certaines des missions du DSI et des rôles qu'on a pu identifier tout à l'heure ensemble, notamment dans la méthode Scrum. Alors je me suis dit, tiens, il y a un rôle en fait dans le DSI. Le DSI, il est un petit peu le product owner de l'IT. Donc l'IT pur et dur, infrastructure, cybersécurité, etc. Pourquoi? Parce que... Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se pose cette question-là? Parce que si l'entreprise achète un projet, alors le résultat, il doit être visible. Et ça, c'est ce qui doit motiver le DSI, c'est de se rendre compte que l'argent qui est dépensé, elle livre une valeur ajoutée. Ça, c'est génial parce que c'est exactement ce qu'on attend d'un product owner. Et quel va être le challenge pour le DSI dans ce cas-là? C'est qu'en général, les CEO, les chefs d'entreprise, personne n'aime payer pour des projets IT. Il y a des projets que les gens sont très contents de payer, mais l'IT, en général, pas terrible. Donc le rôle du CEO, c'est un rôle qui est assez proche du rôle du product owner, c'est de valoriser son produit, valoriser son projet pour aller justement chercher de l'engouement d'utilisateurs, pour aller rendre le projet désirable et donc que derrière, avoir du budget soit un petit peu plus facile. Donc une des idées que moi je mets en œuvre derrière, c'est que quand j'ai cette casquette de product owner de l'IT, j'essaye de réfléchir l'IT vraiment comme si c'était un produit, un petit peu un IT as a service. Donc, je vais réfléchir ma roadmap technique pour intégrer et marketer et mettre en avant des fonctionnalités, des usages, des retours sur investissement, comme si j'étais en train de construire un produit que j'allais vendre à d'autres personnes. Comment je fais ça? En fait, ça me demande d'utiliser, encore une fois, des compétences que j'ai apprises dans d'autres métiers. prends le temps d'aller comprendre quels sont mes clients, quels sont leurs moyens, quels sont leurs envies, c'est quoi leurs problèmes à résoudre, pour que je puisse me mettre à leur place quand je vais parler du produit, quand je vais parler des services que je vais rendre. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour expliquer mes contraintes en tant que DSI sur l'IT, mais plutôt quand je vais parler de mon produit, je vais parler des bénéfices que ça va apporter aux utilisateurs finaux d'avoir mis en place ces solutions-là. Je vais aussi mettre en place sur mes projets IT un plan marketing, un plan de communication pour expliquer l'avancement et pour aller me créer des alliés autour de mon service qui vont eux aussi avoir intérêt à ce que ce produit se réalise et se mette en œuvre. Je vais essayer, en tant que PO, de découper ma roadmap pour qu'elle livre rapidement de la valeur, pour faire du test and learn des fois, pour essayer de faire des petits tests à pas cher, enfin vraiment appliquer toutes les méthodes que j'ai pu apprendre en agilité quand je suis un PO et que je dois mettre en œuvre mon produit. Je vais encourager les équipes à faire des démos régulièrement pour montrer la valeur et montrer qu'on livre, pour créer une émulsion autour des sujets IT, pour challenger aussi, de temps en temps, les propositions qui sont faites, pour qu'on ne fasse pas toujours de la même manière, pour aller venir régulièrement amener de l'innovation. Et puis challenger aussi les équipes, à savoir est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fabrique en interne. Enfin voilà, vraiment les mêmes réflexions que ce que j'avais quand j'étais product owner et que je venais construire mon produit. De se dire le DSI, c'est le product owner du projet d'un produit IT. Je trouve que le marketing, par exemple, c'est très très bien vendre ses propres projets. En même temps, c'est leur métier de savoir vendre. Et donc très rapidement, ils font rêver tout le monde. I have a dream, ok. On peut trouver ça agaçant, mais en même temps, on peut leur reconnaître un vrai talent. Et c'est vrai que nous, si on est un peu la caricature de nous-mêmes, à part dire j'ai un gant et j'ai un plan, on ne fait pas toujours très, très beaucoup rêver. Donc c'est ça que je voulais dire avec ce même, et c'est ça pour moi la conclusion de ce premier rôle-là, c'est prenons conscience que aussi en interne, on doit être un peu mieux communicant que juste dire on est carré, on est sérieux, on est rigoureux, on est ceux sur qui on peut avoir confiance. Il faut aussi qu'on soit capable de vendre et de marketer un peu nos propres projets. Le deuxième rôle qu'on peut avoir, c'est le rôle de Scrum Master. J'ai préféré l'appeler facilitateur. L'idée, c'est de dire pour moi, OK, donc maintenant, il y a une roadmap digitale. On va plus parler logiciel. On va être un peu moins dans le monde IT. Et dans la plupart de nos entreprises, donc le SI est une activité de service au support de l'activité de l'entreprise. Chaque BU, chaque métier va avoir ses besoins, ses ambitions, sa roadmap de transformation et va vouloir travailler avec l'équipe de la DSI en relation complémentaire pour réaliser cette transformation. Sauf qu'on sait très bien que attaquer le sujet de transformation BU par BU, c'est rarement la bonne vision. Il faut plutôt avoir une démarche systémique de transformation au niveau de l'entreprise. Et là, notre rôle, c'est d'être à la fois des experts de cette transformation, mais aussi des experts de faire travailler les équipes en collectif. Et ben ça, c'est exactement la définition du facilitateur. C'est celui qui est là avec une position neutre, et c'est l'avantage d'être à la DSI, c'est que justement, on est un peu moins dans le métier, on est un peu plus neutre, et on peut aider, utiliser cette neutralité pour animer les membres du COMEX et les différentes BU sur la réalisation, la priorisation de la stratégie d'entreprise. Donc là, l'objectif, c'est que l'entreprise ait une roadmap de transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la DSI a une roadmap de transformation, c'est bien une roadmap de transformation systémique à l'échelle de l'entreprise. Donc alignée sur une stratégie d'entreprise. Et nous, notre job en tant que DSI, c'est de la rendre partagée, de la rendre visible et de garantir qu'elle est vraiment pas la propriété que de la DSI, mais bien de la propriété de tout le COMEX et de toute l'entreprise. Une erreur que j'essaye de ne pas faire, parce que je trouve personnellement que c'est une erreur, c'est que ce n'est pas à nous de la prioriser. C'est bien à l'entreprise de prioriser et de donner les priorités qu'il y a derrière. Et il ne faut pas qu'on le fasse à leur place. Si on fait à
Tout à
leur place,
fait.
ça devient notre problème. Et je trouve que ça, c'est une erreur. Donc c'est vraiment, il faut savoir que le jour où on le fait à la place de quelqu'un, il faut être conscient de ce qu'on est en train de déclencher derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, le DSI dans ce rôle-là, c'est le facilitateur qui doit être au cœur de toutes les BU pour aller secouer la pulpe, aller recueillir, OK, c'est quoi le vrai besoin qui se cache derrière et aller les faire formaliser, animer au sein du COMEX la priorisation de ces besoins, ce qu'on appelle le business partner, et aider justement au pilotage, à la priorisation et à la communication de ces besoins en interne. Et là, notre métier, c'est d'abord, avant tout, de rendre visible. Et c'est ça qui est souvent difficile, c'est de rendre les choses visibles, claires, synthétiques, en parlant un seul langage qui est le langage de l'entreprise et pas le langage technique de l'informatique. Et là, ce qui m'intéresse en fait dans ce rôle-là, c'est de se rendre compte que le DSI prend vraiment une posture qui est différente. Autant avant, il était leader à essayer de vendre quelque chose, là, il a une posture beaucoup plus basse, beaucoup plus humble, et c'est je me mets au service des autres pour qu'on s'aide ensemble à avoir une vision partagée. Là où le DSI a aussi une valeur ajoutée, c'est de par les méthodes qui sont utilisées dans ces équipes, amener une boîte à outils pour faciliter ce travail collaboratif. Donc, des outils comme de la priorisation de 20/80, des outils pour rendre visible l'information avec des logiciels, des pratiques, avoir un MVP, c'est-à-dire avoir un premier projet livrable. Enfin, voilà, tout un ensemble de méthodes et d'outils qu'on peut mettre à disposition du COMEX et de l'entreprise. Bah, pour réaliser justement ce travail de facilitation. Et comme je disais tout à l'heure, seulement en cas d'urgence, être source de propositions sur des priorités, là où il y aurait besoin de débloquer, parce que personne n'est capable de décider, quoi. Si personne ne décide et qu'on a l'aval du CEO, c'est la seule condition pour moi dans laquelle la DSI peut prendre une décision de priorisation à la place des directions métiers. Pareil, est-ce que ce rôle de facilitateur, de DSI facilitateur de la roadmap du SI? Donc pareil, pour terminer sur cet aspect facilitateur et garant aussi un peu de quelques bonnes pratiques, pareil, une petite blagounette de choses qui doivent vous parler. Je tape encore sur les marketing, c'est facile, mais parce qu'en général, ça nous parle à tous. La DSI, on doit aussi être garant de bonnes pratiques. Quand on voit un projet qui démarre avec budget fixe, périmètre fixe, date fixe, il y a un moment, ça doit nous alerter dans la tête et on doit être en tant que DSI garant de dire, attendez, ça, c'est bon, on sait que ça marche pas. Donc, on doit aider l'entreprise à se dire, trouvons des bonnes pratiques pour que, pour le coup, ça soit soutenable, durable et qu'on évite, voilà, ce genre de piège. Le troisième sur les quatre profils pour moi qu'il y a derrière le DSI, c'est le DSI qui est développeur. Donc pas développeur de logiciel, mais qui est développeur de l'humain. Alors pourquoi je parle de ça? Si on reprend ce que je disais tout à l'heure sur les valeurs qu'il y avait dans le manifeste agile, bah, sur ces valeurs-là, il y en a trois sur quatre en fait qui nous parlent d'humain. Les individus et les interactions plus que les processus et les outils. La collaboration avec le client plus que la négociation, l'adaptation au changement, on parle que d'humain. Et on l'a parlé tout à l'heure, Pierre-Antoine disait que le marché était un marché en tension. Je connais pas votre parcours à tous. Il y a peu de formation managériale quand même dans nos métiers. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus servis. On a beaucoup plus souvent tendance d'avoir des formations techniques, à la fois pour nous, mais aussi dans ce qu'on fait auprès de nos équipes. Et donc notre objectif en tant que manager, c'est de faire passer nos équipes d'une collection d'individus, de gens qui ont des domaines de connaissances hyper pointus, spécialistes dans leur domaine, à un groupe collectif soudé qui va justement travailler ensemble pour que on lève et on résolve ensemble des objectifs au service de l'entreprise. Donc ça, c'est notre objectif normalement en tant que DSI. Si moi je prends quelques éléments du management agile, il y a des pratiques qu'on essaye d'avoir dans une équipe agile. On se dit, voilà, une équipe, c'est jusqu'à 7 ou 10 personnes maximum. Donc c'est un manager pour 1 à 10 personnes maximum. En tant que manager, je vais essayer de faire travailler mes équipes et d'internaliser les sujets qui sont stratégiques. Parce que sinon, je sais que si je ne fais faire à mes équipes que les choses pas stratégiques, parce que ça, je le délègue ailleurs, eh ben, j'aurai du mal à travailler sur le levier de la motivation. Je vais aussi essayer de trouver comment je peux trouver de la complémentarité au sein de mon équipe. Et de la complémentarité, ça veut dire aussi, moi en tant que manager, avoir de la gestion des risques sur les compétences. Si j'ai une compétence dans l'équipe qui n'est portée que par une personne, eh ben, comment en tant que manager, je vais faire en sorte de ne pas être à risque parce qu'il y a des vacances, parce qu'il y a les arrêts maladie, parce qu'il y a des départs, etc. Donc ça, c'est des choses que dans l'agilité, on essaye de traiter. Donc ça veut dire quoi en tant que DSI? Ça veut dire que en tant que premier manager de l'équipe, je dois énormément travailler et réfléchir le catalogue de compétences de mes équipes. Aussi bien la compétence collective, il faut que j'arrive à animer mon équipe pour développer ses interactions, son écoute, sa responsabilité collective du projet et du SI, et aussi travailler les compétences individuelles. En général, leurs compétences techniques, encore une fois, ils savent la travailler. Donc là, j'ai un rôle à faire qui est un peu différent, c'est non pas aller les challenger sur leurs compétences techniques, mais plutôt sur leur capacité à travailler ensemble au sein de l'équipe et travailler en dehors de l'équipe avec d'autres personnes. Sortir justement un petit peu de ce côté autiste dont je parlais au début de la présentation pour être provocant. Donc ça veut dire que qu'est-ce que j'ai à faire en tant que développeur de l'humain dans mon équipe? C'est mettre en place des rituels collectifs, des rituels individuels, mettre en place, de par ces échanges, des plans de formation pour arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Et puis tout d'abord, moi, incarner la manière dont j'ai envie que l'équipe fonctionne. Si j'ai envie d'avoir une équipe énergique, faut que je sois un petit peu énergique, quoi. Si j'ai envie qu'il y ait de l'écoute, je dois être le premier à l'écoute de mon équipe. Si j'ai envie, vous avez compris. Moi, je sais qu'il y a trois valeurs qui me plaisent. Je le dis à mes équipes, c'est ce que j'attends d'eux. J'ai envie qu'on soit exigeant dans la qualité de ce qu'on livre, mais j'ai aussi envie qu'on soit dans le partage et qu'on soit dans le plaisir. Si je leur dis d'être ça, mais qu'au quotidien, quand je suis présent, j'incarne pas ces valeurs-là, j'aurai du mal demain à être crédible et à arriver à les engager et à les emmener là où j'ai envie d'être. Et ça, on a de la chance et qu'on a un KPI qui marche dans 100% des équipes. Je sais que Sandrine, elle me l'a acheté, ce KPI. C'est le KPI de la banane. Est-ce que tu veux bien leur expliquer, Sandrine, ce que c'est que le KPI de la banane?
Ben non, mais là, on le voit, c'est que vous avez à peu près tous le sourire. Et donc, ça veut dire qu'on doit quand même avoir un minimum d'intérêt et le KPI de la banane, c'est juste de travailler avec le sourire et l'envie. Et je pense que dans nos équipes IT, c'est quelque chose de très fédérateur. Et dans l'agilité, et justement, si on veut aller dans l'agilité, il faut y aller avec du plaisir. Et j'aime bien ta vision, on va dire, du manager et d'associer le plaisir. Moi, j'en suis persuadée, puisque si on veut garder nos équipes et on sait combien c'est compliqué en IT avec le turnover, ça sera que par l'envie et justement cette partie, on va dire, plaisir, mais plaisir partagé et de travail collectif et avoir la banane le chaque matin qu'on emmènera nos équipes. Donc, je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est pas évident de garder sur la durée et surtout de le faire avec des équipes, enfin pour ma part, hein, puisque je suis en prise de poste, que j'ai pas choisi. Donc, fédérer une équipe non choisie et qui parfois a été un petit peu chahutée, c'est un vrai challenge, mais par contre c'est d'une force inouïe quand la mayonnaise prend.
C'est-à-dire que souvent, quand on est manager, des fois on est un peu contraint à des contraintes financières, on dit oula, ou les formations doucement, mais t'es sûr, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon voilà, encore une fois, on arrive à une blague un peu classique, mais qui je trouve tellement vraie. Qu'est-ce qui se passe si on les forme pas et qu'ils restent, quoi? Ok, il y a un risque que je le forme et qu'ils partent, mais encore une fois, je pense que c'est tellement plus grave qu'on les forme pas et qu'ils restent qu'il faut y aller, quoi. Surtout si votre objectif, de toute manière, c'est de réduire le turnover, de garder vos équipes et de faire en sorte qu'ils soient plus impliqués. Le dernier axe, et après j'aurai terminé, la dernière casquette pour moi du DSI, c'est le développeur et le développeur d'une bonne gestion. Pareil basique, hein, mais ça fait quand même partie du taf. Ce qui est sûr, c'est que si nous, on ne le fait pas, on est certain que personne d'autre ne le fera pour nous. Et ça fait partie pour moi des marqueurs obligatoires pour qu'on puisse être crédible. C'est quand même dur de prêter de l'argent et de continuer d'investir dans une BU auprès d'un DSI si ce DSI il n'est pas clair et qu'il n'est pas à l'aise avec ses propres process, sa propre organisation au sein de son équipe. Quand on parle gestion, il y a la gestion financière, mais des fois, ça va un peu plus loin. Et moi, ce que j'aime, c'est faire en sorte que le fonctionnement interne de mon équipe, il soit connu, il soit clair, il soit compréhensible à l'extérieur de mon de ma BU, quoi. Donc, ça veut dire des choses qui sont des fois obligatoires pour d'autres raisons, mais avoir une cartographie de son SI, être capable de le connaître, savoir comment ça fonctionne, où j'en suis de mes licences, où j'en suis de mon infra, enfin voilà, la maîtriser, la connaître et être capable de l'expliquer, de la présenter. Savoir quels sont les processus au sein de l'équipe, de se mettre d'accord sur une philosophie, une politique, on y met un peu le mot qu'on veut. Ça dépend aussi le niveau de documentation qui est nécessaire. D'avoir un pilotage de la stratégie et de la gestion des risques, pareil, qui soit clair, qui soit connu dans l'équipe et en dehors de l'équipe. Voilà les enjeux, voilà les risques auxquels sont exposés l'équipe IT. Moi, je travaille à l'heure actuelle, par exemple, pour un client qui s'appelle McPhee, on est dans le monde de l'hydrogène. Les risques informatiques sont pas les mêmes que mon client précédent qui était dans l'événementiel ou de l'entreprise dans laquelle j'étais avant, qui était un groupe de distribution de dimension nationale. Donc, c'est sûr qu'en interne, il faut expliquer aux gens, voilà, dans notre entreprise, voilà les risques informatiques auxquels on est exposé pour que les gens puissent comprendre justement pourquoi tel projet va être demain prioritaire ou pas. Partager et avoir régulièrement cet aspect budgétaire, effectivement, le comprendre, l'expliquer, être capable d'avoir un petit aspect qualitatif sur pourquoi j'investis autant, c'est quoi les standards du marché, c'est quoi les ratios. Pareil, je trouve que ça explique, ça donne du sens et ça permet d'avoir un autre axe de lecture sur juste ce qui peut être de temps en temps des tableaux de chiffres. Donc même si on a peu parlé d'outils, moi je voulais vous en parler de trois que j'ai mis en place ces dernières années, que j'ai trouvé un peu sympa. Je ne sais pas si certains les connaissent ou si vous en avez d'autres à proposer. Sur la cartographie, moi j'ai découvert un outil il n'y a pas longtemps qui s'appelle Mercator. Pour la cartographie du SI, il a l'avantage d'être un outil français, d'être disponible gratuitement sur GitHub, il y a juste à tirer le projet. Et il met en place les préconisations et la méthode de cartographie du SI proposée par l'ANSI. Plutôt sympa. Un deuxième outil qui est un outil payant qui s'appelle Airsas, mais je trouve très pratique et très sympa pour les DSI, ça permet de faire du portefeuille de projets à grande échelle. Il est fait que pour piloter des projets IT et il est vraiment très 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 sympa. Je trouve que c'est un bon, ça marche. Et pareil, un ITSM, alors on est dans le grand classique des outils informatiques. Un ITSM, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa si jamais vous avez un projet de changement d'ITSM. Voilà, j'ai découvert un outil qui s'appelle Cockpit ITSM. Pas très cher, très simple d'utilisation, bien cadré, il fait super bien le job. Ça marche, j'ai trouvé assez sympa. Donc ça, c'était pour moi le béaba des outils du DSI. Et puis dans la bonne gestion, être capable de se comparer à des standards du marché. Moi, c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant dans la DIRA, c'est de temps en temps qu'on puisse se partager entre nous les quelques indicateurs. Et toi, t'en es où? Les points de repère RH que Pierre-Antoine nous parlait tout à l'heure. Les cartographies d'outils. Enfin voilà, je trouve que tous ces échanges, toutes ces informations-là sont super intéressantes qu'on puisse les partager entre nous. Il y a aussi quelques éléments de littérature qu'on peut obtenir de la part de cabinets de conseil. Mais c'est des ratios. Je trouve que c'est intéressant quand on présente un budget ou quand on le construit, d'être capable aussi de présenter et de donner du relief à voilà l'état du marché et voilà comment est le budget de mon équipe dans cette entreprise-là à ce moment-là. Un dernier slide de conclusion, et puis après, on pourra échanger tous ensemble sur ces sujets. Donc, pour moi, le DSI, il a ces trois casquettes-là à la fois, donc, une casquette de PO de l'IT, une casquette de facilitateur de la roadmap du SI, et il a lui-même un rôle de développeur, c'est-à-dire de je suis dans l'opérationnel parce que de toute façon, personne d'autre le fera. Mon premier rôle opérationnel, c'est d'être un développeur de l'humain. Et c'est d'être le garant de la bonne gestion et de la bonne organisation de mon service. Et donc, si je devais adapter un tout petit peu pour faire la boucle avec le début, les valeurs de l'agilité au monde du DSI, qu'on a construit avec Sandrine, c'est ces quatre valeurs-là. Alors, la première, on n'a pas voulu y toucher au final, elle nous a bien plu. Les individus et les interactions plus que les process et les outils. Par contre, on a adapté un petit peu les trois autres. On s'est dit un SI fonctionnel et sécurisé, plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration en continu, plus que la négociation de contrat, et enfin l'adaptation au changement de l'entreprise, plus que le suivi d'un plan. Voilà ce que j'avais, ce qu'on avait envie de vous partager ce midi avec Sandrine, et il nous reste un long moment pour pouvoir échanger tous ensemble.